Chapitre 7. Entrons dans la cellule de la connaissance de nous-mêmes. Cette formule reparaît sans cesse dans les lettres de Catherine. Et si courte qu'elle soit, elle signifie tout ce que représentait à ses yeux la vie de retraite. Beaucoup vivent dans une cellule et néanmoins en sont absents par la pensée, lui dit un jour le Sauveur. Je veux donc que ta cellule soit celle de la connaissance de toi-même et de tes péchés. La connaissance d'elle-même et la connaissance de Dieu, tel était le double secret de la vie cellulaire de Catherine. Elle apprenait à se connaître elle-même et à connaître son Dieu. Un jour, elle a formellement déclaré à Raymond de Capou « Aucun homme ne m'a appris quoi que ce soit touchant les voies du salut. Mais c'est l'époux, bien-aimé de mon âme, notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a été mon maître et qui m'a tout enseigné, soit par des inspirations intérieures, soit en se manifestant visiblement à moi et en conversant avec moi comme je le fais en ce moment avec vous. » Cette dernière phrase ne laisse rien à désirer comme précision. Et cependant, Raymond ajoute encore que dès qu'elle avait fermé la porte derrière elle, notre Seigneur lui apparaissait et daignait l'instruire de tout ce qui pouvait être utile à son âme. Tel était l'accomplissement de la promesse d'avoir avec elle des relations plus intimes et plus fréquentes que le Sauveur lui avait faite après la victoire qui suivit le terrible combat. Chaque soir, quand il commençait à faire nuit, raconte Caffarini, la Vierge se sentait attirée vers Dieu par une puissance irrésistible. Sa volonté et son cœur se rapprochaient de la volonté et du cœur de Dieu, et le monde extérieur s'évanouissait pour elle. Mais le monde intérieur, le monde de l'esprit, le ciel, le paradis s'ouvraient devant elle. À maintes reprises, le Seigneur vint la visiter dans sa cellule, amenant avec lui ses amis, Marie-Madeleine, Saint-Jean l'évangéliste, les apôtres, Jacques et Paul. Parfois aussi, elle rencontrait ses hôtes célestes dans le jardin, lorsqu'au crépuscule, elle se promenait dans les allées bordées de lavande, parmi les roses et les lys. Un jour, elle fut si absorbée par son entretien avec le Seigneur et Marie-Madeleine que la nuit tomba complètement sans qu'elle s'en aperçût. « Maître, s'écria-t-elle alors, il ne convient pas que je reste dehors aussi tard. « Permets-moi donc de me retirer ?»« Fais comme il te semblera bon, ma fille, » fut la réponse. Et comme Catherine se relevait pour descendre dans sa cellule, Jésus et Madeleine la suivirent et restèrent encore quelque temps chez elle. Tous trois, s'étant assis sur le banc, causèrent ensemble comme de bons amis. Jésus à droite, Madeleine à gauche et l'hôtesse au milieu entre ses deux visiteurs. Un autre soir, tandis qu'elle priait, Catherine eut le sentiment que Jésus, accompagné de saint Dominique, était à ses côtés. Elle en ressentit une telle joie qu'elle se mit à chanter tout haut. Les deux hôtes célestes se joignirent à elle et tous trois chantèrent de concert, comme chantent les élus devant le trône de Dieu. Puis la vision s'évanouit et Catherine se retrouva seule, le cœur prêt à se rompre d'ardentes aspirations vers la patrie céleste. Depuis lors, Catherine se tenait souvent au guet près de la petite fenêtre de sa cellule ou bien se rendait dans les jardins par les soirées étoilées de l'hiver, et quand elle sondait ainsi les profondeurs de l'espace, il lui semblait percevoir au loin, tout à fait au loin, le chant des milices célestes. Et il lui devenait affreusement dur de se sentir environné des ombres de la terre. Le père Tommaso della Fonte la rencontra un soir de janvier là-haut dans le jardin. « Père, n'entendez-vous pas comme il chante dans le ciel ? » interrogea-t-elle. « Tous ne chantent pas de la même manière. Ceux qui ici-bas ont le plus aimé Dieu possèdent les voix les plus claires et les plus belles. Ô père, père !» N'entendez-vous donc pas chanter Madeleine ? Sa voix s'élève au-dessus de toutes les autres. Tommaso della Fonte n'entendait rien. Il voyait seulement scintiller la rouge Rigel ou la bleue Vega et contemplait le visage pâle et rayonnant de sa fille spirituelle levée vers le ciel. Soudain, elle fondit en larmes, amère, brisée par sa nostalgie du paradis. Au début, ces apparitions remplissaient Catherine de frayeur. Elle redoutait qu'elles ne fussent un mirage satanique et en exposa sa crainte au Sauveur lui-même. Il lui apprit alors à distinguer les visions. « Celles qui viennent de moi, lui dit le Seigneur, commencent par inspirer la terreur, mais prennent fin dans un sentiment de sécurité. Elles provoquent d'abord l'amertume et se terminent dans la douceur. Il en va tout autrement pour les visions qui viennent de l'ennemi. Elles commencent dans la joie, la sécurité, la douceur et finissent dans l'amertume et l'angoisse. Mais je veux t'indiquer un signe plus infaillible et plus certain encore, continua le Sauveur. Puisque je suis la vérité, sois sûr que des visions qui viennent de moi résultent toujours une connaissance plus grande de la vérité. L'âme apprend à me connaître et à se connaître elle-même. Elle me voit et se voit elle-même. Et il s'ensuit qu'elle m'honore et se méprise elle-même. Voilà en quoi consiste l'humilité. Mes visions et mes révélations rendent donc toujours l'âme plus humble, en lui montrant toujours davantage sa propre misère. Les visions suggérées par l'ennemi produisent un effet contraire. Il est le père du mensonge et le roi des orgueilleux. Aussi, ces visions procurent-elles une certaine estime de soi, une certaine présomption, et l'âme reste, elle, gonflée et pleine de vent. Tu pourras donc désormais discerner tes visions et savoir si elles proviennent de la vérité ou du mensonge. Car la vérité rend humble et le mensonge rend orgueilleux. Après avoir reçu ces enseignements, Catherine s'abandonna sans crainte à ses relations surnaturelles. Tommaso della Fonte, qui venait fréquemment lui rendre visite, la trouvait toujours rayonnante et joyeuse, comme une jeune épouse, tantôt priant, tantôt chantant. Dans le cœur et sur les lèvres, elle n'avait que Jésus. Dans la rue, elle marchait à côté de Jésus. Son regard ne cherchait que Jésus. Elle ne considérait que ce qui pouvait la conduire à Jésus. Vers le soir, on l'entendait pleurer sur ses propres péchés et sur les péchés du monde. Ou bien elle avait de longs entretiens avec ses hôtes de l'au-delà. En ce cas, on l'entendait parler avec animation, puis se taire, comme attendant une réponse, et reprendre ensuite la parole. « Seigneur, s'écria-t-elle un jour, je ne m'étonne point que tous les hommes soient ce qu'ils sont. » Tu as fait pour moi une exception, tu as blessé mon cœur de ton amour et tu as toi-même préservé ma pureté. Ah, si les pauvres hommes aveugles et sensuels pouvaient un seul instant goûter ton amour, je suis convaincue que tous, renonçant aussitôt à leur jouissance charnelle, se hâteraient de boire à la source de ta bonté. Ô Seigneur, pourquoi ne les attires-tu pas vers toi ? Quelques instants de silence suivirent. Puis Catherine parla de nouveau. « Éternelle vérité, je te comprends, dit-elle. Si ces hommes avaient un jugement droit et voulaient considérer les innombrables bienfaits dont tu les combles journellement, ils seraient saisis d'amour pour toi. » Cependant, les doutes et l'inquiétude de Catherine ne semblaient pas encore apaisés, car elle reprit. « Mais Seigneur, pourquoi ces hommes sont-ils assez sots pour ne pas reconnaître tes bienfaits envers eux ?» Après un court silence, la voix solitaire s'éleva encore une fois. « Ceci n'est que trop vrai, éternelle vérité. Leur raison est obscure et inculte. Ils ne peuvent pas comprendre tes bienfaits et ne se soucient guère de connaître leurs bienfaiteurs. » C'était le grand problème qu'aucun philosophe chrétien n'a jamais pleinement résolu, qui cette nuit-là préoccupait Catherine. Le problème du rapport qui peut exister entre la toute-puissance de Dieu et le libre arbitre de l'homme, entre l'amour de Dieu et la damnation éternelle, le mystère de la prédestination. Pourquoi y a-t-il des vases d'honneur et des vases d'opprobre? Indirectement, en quelque sorte, Catherine essayait de trouver la solution du problème. « Comment se peut-il faire ? » demanda-t-elle. Qu'en dépit de toute sa bonne volonté, l'homme soit incapable de se sauver lui-même, et que toi seul, Seigneur, tu puisses opérer son salut. Tu n'as nullement l'obligation de me répondre, Seigneur, s'écria-t-elle aussitôt après, comme si terrifiée par sa propre hardiesse, elle se sentait clouée à terre par son indignité. Je sais fort bien que l'enfer est insuffisant pour châtier mes fautes sans nombre, et que tout ce qui en moi vient de moi-même mérite en rigoureuse justice la damnation éternelle. Et cependant, la rédemption était pour tous. La grande pécheresse de Magdala avait trouvé miséricorde, elle qui, aux yeux de Catherine, était le vivant symbole de l'espérance, l'arc-en-ciel de l'alliance au firmament de la colère divine. Quid Mariam absolvisti? Toi qui as pardonné à Madeleine, à qui donc ne pardonneras-tu pas également? Oui, mais aussi, Madeleine aimait-elle le Seigneur d'un amour sans limite et marcha-t-elle toujours sur ses traces, le suivant sur le chemin du calvaire jusqu'au Golgotha et jusqu'au sépulcre obscur? N'est-il pas vrai, Marie? Jamais tu ne te retournas pour contempler Sodome qui brûlait derrière toi. Tu n'abandonnas pas la charrue pour regarder en arrière et considérer avec plaisir tes péchés. Ah, ressembler à Madeleine, suivre le Maître dans la pauvreté, dans l'abjection, dans le froid, dans la tempête, dans le dénuement, et finalement dans le sentier épineux jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Et submergée par le flot de ses sentiments, près de mourir d'amour pour le crucifié, Catherine s'exclama : Ô amour qui nous a aimés le premier, ô profondeur de l'amour divin, ô Père céleste, ô adorable Fils de Dieu, ô toi, Verbe éternel obéissant jusqu'à la mort, vérité éternelle, tu es la vie, tu es la porte par laquelle nous devons tous passer pour ne faire plus qu'un avec toi. Puis de nouveau elle revint à sa première question. Mais Seigneur, puisque tu es la voie et la porte qui s'offre à tous, pourquoi tes enfants ne viennent-ils pas à toi? C'est par leur propre faute qu'ils errent hors du droit chemin et marchent vers l'abîme. Leur jugement est faussé. Mais pourquoi en est-il ainsi? Le problème se posait de nouveau, et cette fois, une réponse tomba de la bouche de Jésus. Je veux te le révéler. Tout d'abord, je place les hommes dans la bonne voie. Mais à moitié route, dégoûté et lassé, ils s'arrêtent et cherchent du repos sur la couche moelleuse de l'amour d'eux-mêmes, refusant de se haïr d'une haine totale. Il leur semble que s'ils persistaient dans leur première résolution, ils auraient pendant nombre d'années encore à traîner un intolérable fardeau. Et il leur paraît impossible de toujours pratiquer les vertus chrétiennes. C'est de la faiblesse et de la lâcheté. Et veux-tu en savoir la cause? C'est que mon amour s'est attiédi en eux, et que lui seul rend doux mon joug et léger mon fardeau. Ici, Catherine aurait encore pu demander pourquoi Dieu n'accordait pas à ces voyageurs fatigués, à ces chrétiens découragés, un renouvellement de grâce et d'amour, puisque c'est Dieu qui tout à la fois nous fait vouloir et agir, et que sans lui nous ne pouvons rien faire. Mais on donne volontiers raison à celui qu'on aime, et l'on se contente aisément de ses explications. Or, Catherine aimait Jésus. Soudain, elle se mit à considérer la question sous un autre angle. « Oui, Seigneur, déclara-t-elle, ce que tu dis est juste, tu as raison, tu as toujours raison. Si tant d'êtres humains se dirigent ainsi vers l'abîme, ils en sont seuls responsables. C'est parce qu'ils suivent obstinément l'inclination de leur volonté propre. Mais je sais à présent ce que je ferai. Je réunirai tous nos péchés, toutes nos transgressions, toutes nos misères humaines en une grande gerbe que je chargerai sur mes épaules et je porterai cet horrible fardeau au pied du trône de ta miséricorde infinie. C'était le salut universel qu'implorait Catherine. Après quelques instants d'attente anxieuse, elle poursuivit. « Mais c'est toi-même, Seigneur, qui m'inspire ce désir. Tu dis que tu ne peux m'exaucer dès à présent et satisfaire à ma demande. Et pourtant, c'est l'aiguillon de ta grâce qui me pousse à crier vers toi. » Catherine ne reçut aucune réponse et dans la crainte d'être allée trop loin, elle gémit tout à coup. « Oh, âme maudite, qui donc es-tu pour oser lever ton regard vers Dieu ? Âme misérable, qui donc es-tu pour que Dieu daigne converser avec toi face à face ? Qui suis-je, Seigneur ? Qui suis-je, Seigneur ? Et dis-moi aussi, Seigneur, qui tu es. » Un profond silence se fit dans la pièce où une grande âme luttait avec son Dieu. Puis la réponse vint, lente et solennelle. « Ma fille, tu es celle qui n'est pas, et je suis celui qui suis. » Chaque nuit, Catherine veillait ainsi, renouvelant le combat de Jacob, la prière d'Abraham pour Sodome. Elle souffrait continuellement à la pensée que tant d'êtres humains seraient damnés. « Je veux, Seigneur, que tu aies tout, et ton ennemi rien, » gémissait-elle. L'existence de l'enfer lui semblait un fiasco pour la cause de Dieu, et elle eût aimé pouvoir se placer comme un couvercle sur l'abîme, afin que personne n'y pût tomber. Oui, elle s'offrait à Dieu pour être damnée, si par ce moyen, elle devait réussir à sauver tous les autres. Mais son offre était rejetée, et elle ne retrouvait le calme qu'en méditant la vieille sentence. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous ne pouvons embrasser d'un coup d'œil l'œuvre de l'Éternel. Nous ne pouvons pénétrer ni ses motifs ni ses desseins, et il nous est interdit de les juger. Il est celui qui est, et nous sommes ceux qui ne sont pas. Il est l'être, et nous sommes le rien. Et comment le rien pourrait-il concevoir l'être ? Dorénavant, cette considération devient le fondement de la croyance et de la vie de Catherine. Elle répète plus de 100 fois dans ses lettres. Il nous faut entrer dans la cellule de la connaissance de nous-mêmes et reconnaître que nous ne sommes rien, mais que tout être vient de Dieu. « Je suis celui qui suis », c'est la parole de Jéhovah que Jéhovah adressa à Moïse. « Et je suis celui qui n'est pas », c'est, d'après les commentateurs du Moyen-Âge, la réponse de Jean-Baptiste aux Juifs quand ils lui demandèrent s'il était le Messie. Ces simples mots « Non, je ne suis pas celui que vous cherchez » sont comme une définition de la nature même de l'homme. En termes équivalents, Raymond de Capou a dit « Toute créature est tirée du néant et c'est pourquoi elle tend sans cesse à retourner vers le néant. D'elle-même, elle n'est capable de rien. Et quand elle agit selon sa nature, elle commet le péché qui est néant. Toutes les créatures étant ainsi sorties du néant se meuvent vers le néant et s'en rapprochent par le péché. C'est-à-dire que ce qu'elles font par leur propre force est nul. » Puisque la vérité incréée a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », d'où il ressort visiblement que la créature n'est rien par elle-même et qu'au fond, elle n'a point d'existence. La conscience profonde de ce néant est la base de la vie spirituelle de Catherine. Toutes les vertus passives, l'humilité, le mépris de soi, la sobriété, la tempérance, découlent de cette connaissance de soi-même. Comment l'orgueil peut-il trouver place dans une âme qui sait qu'elle n'est rien ? Comment peut-elle être fière de ses œuvres lorsqu'elle sent au plus intime d'elle-même qu'elle n'est rien ? Comment peut-elle mépriser et envier quiconque alors qu'elle découvre qu'elle est elle-même sans valeur ? Comment peut-elle désirer posséder quelque chose sachant qu'elle ne s'appartient pas elle-même et qu'elle dépend du Créateur ? Comment peut-elle rechercher les joies sensibles alors qu'elle a perpétuellement son néant sous les yeux ? La connaissance de Dieu engendre au contraire toutes les vertus actives. Qui donc peut être assez inconsidéré pour ne pas se soumettre joyeusement de lui-même à celui de la main duquel il reçoit tout ? C'est ainsi que Raymond développe la pensée de Catherine. Qui donc peut faire autrement que d'aimer le bienfaiteur qui nous donne toutes choses en abondance et qui nous a aimés avant même que nous existions ? Qui ne craindrait d'offenser un tel ami et de perdre son amour ? Qui ne chercherait volontiers à lui plaire, à écouter respectueusement sa parole, à observer docilement et avec joie les préceptes qu'il a établis pour notre plus grand bien ? Raymond écrit d'une manière un peu rhétorique, mais il exprime assez bien la pensée de Catherine. Nous pouvons le constater d'après ses propres lettres et d'après son livre « Le dialogue » et nous le savons également par un petit ouvrage consacré à la siennoise que le moine augustin anglais William Flettet rédigea en l'année 1376. « Notre sainte mère, dit le bachelier anglais qui était un disciple de Catherine, m'a confié que durant les premiers temps de sa conversion, elle avait posé à la base de sa vie la pierre fondamentale de la connaissance d'elle-même qu'elle avait divisée en trois pierres de moindre dimension. La première pierre était la considération de la créature afin qu'elle sût que, ne possédant rien par elle-même, elle tenait tout de Dieu qui l'avait créée et qui, par pure bonté, dans sa miséricorde, avait toujours pourvu à ses besoins. La seconde pierre était la considération de la rédemption par laquelle le Sauveur, en versant son sang par un amour dont nous n'étions pas dignes, nous a mérité le retour de la grâce perdue. La troisième pierre était la considération des péchés qu'elle avait commis depuis son baptême et de la bonté de Dieu qui n'avait pas permis que la terre s'entr'ouvrît et que l'enfer l'engloutît ainsi qu'elle l'eût mérité. De ces trois considérations naquit dans son âme une si grande haine d'elle-même qu'elle ne désirait plus rien selon sa volonté propre, mais tout selon la volonté du Seigneur, car elle avait compris que Dieu ne désirait que son bien. Il s'ensuivait donc que les épreuves et les tentations étaient accueillies par elle avec joie, tout à la fois parce qu'elle lui était envoyée par la permission de Dieu et parce qu'elle était ainsi châtiée selon son mérite. Elle commençait à trouver un grand déplaisir dans ce qui auparavant lui semblait doux et une grande jouissance dans ce qui lui déplaisait autrefois. Ainsi, elle évitait les caresses de sa mère, qui naguère faisait sa joie, et se réjouissait à présent des reproches et des injures. Et comme conclusion de tout ceci, elle déclarait formellement que l'amour-propre est le principe de tout mal et la ruine de tout bien. Par amour-propre, Catherine entendait non seulement ce qui, dans le langage de notre temps, s'appelle égoïsme, mais encore toutes les inclinations naturelles, tous les sentiments qui n'étaient point soumis à la volonté divine. Jésus déclare dans l'Évangile que celui qui aime son père ou sa mère, sa femme ou ses enfants plus que lui n'est pas digne de lui. Catherine, écrit Raymond, me parlait souvent des dispositions dans lesquelles doit se placer l'âme qui aime son Créateur en disant que cette âme ne se voit plus, qu'elle n'a plus d'amour pour elle-même ni pour d'autres et qu'elle ne se souvient plus d'elle-même ni d'aucune autre créature. Et comme je lui demandais l'explication de ces paroles, elle me répondit « L'âme qui reconnaît son néant et qui sait que tout bien provient du Créateur s'abandonne elle-même avec toutes ses puissances et toutes les créatures et se plonge tout entière dans le Créateur. C'est lui qui devient la fin principale et totale de toutes les opérations. Elle sent qu'elle a trouvé en lui tout bien et tout bonheur parfait. » Et ne peut plus s'en éloigner d'aucune manière. Cette vision d'amour, qui devient chaque jour plus claire, transforme pour ainsi dire l'âme en Dieu, de telle sorte que sa pensée, son intelligence, son cœur, sa mémoire ne peuvent plus avoir d'autre objet que Dieu et ce qui est de Dieu. Elle ne voit plus les créatures et ne se voit plus elle-même qu'en Dieu. En Dieu seulement elle se souvient d'elle-même et des autres. De même que celui qui se plonge dans la mer et nage sous les eaux ne voit et ne sent rien d'autre que l'eau qui l'environne et ce qu'elle renferme. En dehors de l'eau, il ne voit rien, ne sent rien, ne palpe rien. Il ne peut voir les objets extérieurs qu'au travers de l'eau et non autrement. Voilà, disait-elle, l'amour juste et bien ordonné qu'on doit avoir pour soi-même et pour les créatures. Amour qui ne saurait s'égarer ni égarer les autres, car il ne souhaite rien hormis Dieu. Ou bien, comme le dit Catherine elle-même dans une de ses lettres, « Seul le feu de l'amour consume tout amour propre, aussi bien le spirituel que le sensible, et en somme, tout ce qui se trouve dans l'âme, à part la très chère volonté de Dieu. » Dieu n'était pas seulement pour Catherine le bien suprême, mais aussi l'unique bien. Quant à tous les autres biens découlant de celui-là, elle s'abandonnait aveuglément à la volonté de Dieu. Cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné comme par surcroît. Pense à moi, ma fille, et moi je penserai à toi, lui avait dit un jour le Sauveur. Ne t'inquiète ni du salut de ton âme, ni des besoins de ton corps, car je sais tout ce qui t'est nécessaire et pourvoirai en veillant sur toi avec sollicitude. Toutes les autres préoccupations de Catherine étaient à tel point absorbées par son unique désir de plaire à Dieu qu'elle ne se souciait de rien pourvu qu'elle y réussît et que dès qu'elle avait atteint ce but, le reste s'arrangeait de soi-même à ses yeux. Que vous importent les événements? Avait-elle coutume de dire à ses disciples. Ne croyez-vous donc pas que la Providence veille sans cesse sur vous et prend soin de vous? Et elle ne se contentait pas de prononcer ces paroles lorsqu'elle était en sécurité dans sa salive. Elle les mit en pratique durant la peste qui sévit à Sienne, durant la révolution à Florence et durant la tempête qu'elle eut à subir en rentrant d'Avignon pendant la traversée à Saint-Tropez. Ses disciples, persuadés qu'elle allait sombrer, étaient au comble du désespoir. Mais Catherine demeura en paix et les pria de continuer la récitation de leur office comme si de rien n'était. « Nous lui obéîmes, » raconte Raymond. La tempête s'apaisa comme nous approchions de la côte vers l'heure où finissent les matines et nous entrâmes au port en chantant le Te Deum. Ce n'était pas une phrase vide de sens pour Catherine de dire qu'il ne tombe pas un passereau à terre sans la volonté du Père Céleste, et que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Derrière toutes les contingences, elle devinait la main et le cœur d'un Père. « Quoi qu'il vous arrive, recommandait-elle plus tard à ses disciples, ne pensez jamais que cela vient des hommes, pensez que cela vient de Dieu, et que c'est pour votre bien, et considérez les profits que vous pouvez en tirer. » On a voulu faire de Catherine de Sienne comme de Jeanne d'Arc un instrument entre les mains du clergé. Ni l'une ni l'autre ne l'était. Par l'intelligence, Catherine s'élevait non seulement au-dessus de son premier confesseur, le brave et naïf Tommaso della Fonte, mais encore au-dessus de ses autres guides spirituels. Le savant Raymond de Capoue reconnaît loyalement la supériorité de Catherine et un de ses autres confesseurs, Bartolomeo di Dominici, rend le même témoignage. Certains imaginaient que nous étions ses maîtres, tandis que c'était le contraire. À vrai dire, il n'y a qu'une explication possible. La sagesse de Catherine était le fruit de son union avec le Seigneur. Il faut reconnaître l'influence décisive de Dieu sur l'existence de Catherine. L'immanentisme moderne parlera de subconscience ou du moi transcendantal. Pie II a proclamé dans sa bulle de canonisation que la science de Catherine était inspirée d'en haut et point acquise. Et le docte William Fled de Leccetto a peut-être trouvé l'expression la plus juste quand il a dit avec élégance, vérité et simplicité qu'elle était l'instrument du Saint-Esprit. Organum Spiritus Sancti.